Bonjour à tous, bienvenue à Cinébrunch. Et aujourd'hui, André-Jean?
Oui.
On n'est que deux.
Ah ben voilà, en fait, coup de théâtre.
Presque. On est que deux. Ben oui, c'est ça. La saison du rhume est arrivée. On va donc faire l'émission ensemble. Et avant de poursuivre cette émission, j'aimerais dire rapidement bienvenue à nos auditeurs qui se joignent à nous pour notre 60e épisode de Cinébrunch. C'est quand même pas rien.
Souvent. Non, mais on l'oublie trop souvent, c'est ça, de les remercier d'être là. Et là, c'est le 60e, donc c'est un peu votre fête aussi.
Oui, c'est ça. Fêtez avec nous. Et j'ai d'ailleurs la chanson de circonstance pour se mettre dans le bain de la festivité. Écoute, bonne fête à toi, André-Jean.
Merci, bonne fête à toi.
Merci.
Bonne fête à notre invité aussi.
Bonne fête à toi, François, qu'on n'a pas encore présenté.
Merci, je suis là comme étant public, là, présentement, les gens, je ne savent pas, je sors d'où le présentement.
Ben non, c'est ça, c'est la magie de la radio, ça.
Tout à fait. Et, je suis derrière un micro.
Oui, c'est ça. Donc, voilà, 60e anniversaire de Cinébrunch. Alors, on est bien contents.
60e anniversaire.
60e anniversaire d'émission. Donc, ça fait 60 émissions, et non pas 60 ans. On va se garder une gêne. J'ai encore mon teint de jeunesse. Donc, oui, non, c'est ça. On a décidé de. A décidé de festoyer ça en grand. Et voilà, donc aujourd'hui à l'émission, de quoi on va parler en fait? On va parler entre autres, mais surtout de la programmation, de l'univers en fait, des ciné-cadeaux.
Eh oui, c'est un ciné-cadeau qui nous accompagne. Meublé notre enfance.
Voilà, et qui meuble encore l'enfance de certains.
Oui, toujours.
Donc voilà, on va parler de ça en deuxième demi-heure d'émission. Aussi, André-Jean, tu vas critiquer pour nous un film très québécois aussi. Alors, un film hivernal.
Ben, on va se le dire, hein, La course des tuques. Qui est sorti en 2018, effectivement. Ouais, qui vient juste à peine de sortir, en fait, qui est sorti en 2018. Ouais,
non, oui, c'est qui ça, est sorti il y a quelques semaines.
C'est toujours bien weird de dire c'est sorti en 2017.
Oui, on est encore en 2018.
Oui.
La nouvelle,
on se calme, là.
Oui, non, effectivement, bon. Je vais me calmer.
Bon. J'ai hâte de savoir quel truc gagne.
Oui, moi aussi, c'est ça. C'est des trucs sur des traîneaux, c'est ce que j'ai compris. Là.
Ben, je pense que c'est ça s'aligne vers ça.
Voilà. Tout ça un peu plus tard. Et d'autre part, dans mon cas, je vais critiquer pour vous le dernier film sur la vie de l'artiste Vincent Van Gogh qui s'appelle À la porte de l'éternité que j'étais voir pour vous, donc tout ça un peu plus tard. Mais d'abord, André-Jean, tu as des choses à nous dire.
Oui, en fait, j'ai une plug chez Walt Disney Pictures qui vient de dire, en fait, de m'informer que finalement Walt Disney Pictures vient dévoiler la toute première bande-annonce de son nouveau Avenger, hein, qui s'intitulera bien sûr Avengers Final Phase ou la phase finale. Moi, j'aurais dû dire phase finale. Parce
la
que,
grande est conclusion.
Et, ben, et voilà, on est là finalement. On ne connaît pas encore, en fait, le synopsis exact du film.
On sait que ça part bien mal.
Ben oui, mais on sait aussi que dans la bande-annonce, on nous dévoile un petit peu le sort qui va être réservé aux personnages qui seront toujours présents à la fin de... En fait, qui sont toujours présents à la fin de Avengers, la guerre de l'infini. Là, où,
oui, le dernier, War, finalement. Là, oui.
Le dernier qui est sorti, bien sûr. Donc, on a Chris Hemsworth, Evangeline Lilly, Scarlett Johansson, Josh Brolin, Chris Evans, Robert Downey Jr., Paul Rudd et plusieurs autres prennent leur rôle, bien sûr. On pourrait aussi voir Brie Larson. J'aime mieux mon Brie.
Brie, oui.
Dans la peau, bien sûr, de Captain Marvel, hein, qu'on pourra aussi...
Captain Marvel, hein, faut pas...
Oui, il y a effectivement, un E.
Oui.
Et on pourra aussi la découvrir dans son propre film en mars prochain. En fait, Avengers phase finale doit prendre l'affiche normalement le 26 avril. Un film qui a toujours été réalisé, bien sûr, par Anthony et Joe Russo. Donc, c'est ça sera à voir, ma foi.
Et oui, et sans doute avec une dédicace ou en fait un petit mot de remerciement à Stanley qui nous a quittés il y a quelques mois. Je pourrais dire qu'on est dans un mois. Là.
Ouais. Oui.
Il y a quelques mois, donc voilà, à suivre du côté de Marvel. Merci, André-Jean.
Exact.
De mon côté, je vais vous parler d'une autre grosse production. En fait, je vais vous parler de la suite d'un film qui est sorti en décembre 2009. Ça vous dit-tu quelque chose jusqu'à maintenant? Et dont la suite était supposée sortir il y a plusieurs années, mais a toujours été repoussée. Toujours rien?
Non. Alors, It, c'est pas It, la nouvelle version?
Non, plus gros que ça. Là, plus gros que ça. Donc, je vais continuer d'en dire jusqu'à ce que vous compreniez. Donc, il n'y a pas une, mais quatre suites qui vont avoir lieu de ce film-là. Ça va sortir, le prochain va sortir le 18 décembre 2020. Et je parle d'Avatar. Donc,
ooh, Avatar,
il va avoir, non pas une, mais quatre suites, du premier film de 2009. Et vous saviez que le film de James Cameron, parce que c'est James Cameron qui a réalisé Avatar, c'est le film le plus lucratif de tous les temps, encore aujourd'hui, avec 2,78 milliards de gains au box-office, qui est suivi de près par, encore une fois, un film de James Cameron, Titanic, qui lui a 2,18 milliards de gains. Donc, voilà. Il y a même une rumeur actuellement comme quoi James Cameron serait en train de révolutionner le cinéma en 3D pour toujours. Il développe des nouvelles technologies. Hein. Déjà, quand il a sorti le premier Avatar, c'était assez impressionnant là, au niveau de comment le 3D a été amené.
Ouais.
Moi, personnellement, je l'ai vu au cinéma et c'est sincèrement la plus belle expérience de 3D que j'ai eue dans ma vie. Donc, après ça, j'admets que je n'ai pas été si charmé. Peut-être un peu Life of Pi qui était pas mal. Mais en général, je trouvais qu'on perdait de la perspective, on perdait du style.
Mais il attendait quand même d'avoir les technologies pour être capable de le faire, ce film-là. T'sais, il a attendu longtemps
ben
pour Avatar.
Exactement.
Lui, c'est un fervent des technologies. T'sais. Il va chercher les technologies.
Il veut pousser plus loin.
Il attend
ça.
Que ça soit là. Fait que c'est je sais pas, est-ce que ça va être en VR, cette patente-là? On le sait pas.
T'sais. Ben là, de ce que je comprends, en tout cas, il y a des différentes rumeurs. Là. J'avoue que je pense qu'on en met un peu pour réveiller la stimulation cérébrale. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas et on ne saura probablement pas jusqu'à l'année prochaine ou au moins la fin de cette année. Donc, l'année prochaine, parce qu'on est pas mal à la fin de cette année.
En fait, dans un mois. On va tout savoir dans un mois.
Il y a des rumeurs comme quoi, parce que James Cameron a dit en entrevue qu'il allait révolutionner vraiment le 3D, qu'il allait pousser ça plus loin, que ce serait le plus beau 3D qui a jamais été fait. Et il y a des rumeurs comme quoi on pourrait peut-être avoir pour la première fois accès à du 3D sans lunettes au cinéma, avec une nouvelle technologie révolutionnaire de projection au laser. À voir. Est-ce que ça va être des hologrammes? Je sais pas. À voir. J'attends impatiemment d'en savoir plus sur le sujet. Est-ce que c'est des oui-dire ou est-ce que c'est vrai?
Est-ce que ça va finir par du théâtre, finalement? Ça va être du
les
bon
gens vont
3D.
Vraiment venir c'est dans ça. Les salles. Ça
cool. Ou est-ce que c'est pas juste une mise en scène pour que tout le monde se projette et qu'il fasse encore un record au box-office à son arrivée?
Je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce film-là batte le record du premier Avatar parce que, bon, c'est James Cameron et visiblement, il met le paquet. Pour que ça marche.
Mais
donc,
l'attente est là aussi. Il y a des gens qui. Moi, ça m'a surpris. Hein, le premier Avatar, là, je m'excuse, je digresse.
Ah, ben,
je
t'as le droit, t'as tout à fait ton droit.
C'est qu'il y a des gens qui ont commencé à faire des jeux de rôle des vivants, là, c'est-à-dire des grandeurs nature pour certains, mais où ils incarnaient donc des créatures bleues qui n'étaient pas géantes.
Mais j'ai eu vent qu'il y avait effectivement des
se peinturaient
des grandeurs nature d'Avatar.
Oui, respecter la nature ensemble et communier avec celle-ci.
Il y a un petit ton condescendant.
Non, mais j'ai beaucoup de respect pour la nature, il ne faudrait pas me... Et surtout en cette époque de tolérance, d'hyper-tolérance, il ne faudrait pas me caricaturer, Jim.
J'oserais pas. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est pas mal tout pour les nouvelles. On revient après cet intervalle musical pour parler de François qui est avec nous.
Oui.
Vous êtes toujours à Cinébrunch et trêve de plaisanterie, on revient à notre programmation et on va parler avec François Genet, le maître du Kino Show. François Genet, bienvenue avec nous officiellement dans l'Aigle de l'art.
Bonjour, depuis tantôt je suis là. Mais
bonjour,
genre,
c'est
façon,
ça, on t'a pas présenté, on est de même. Hein,
c'est correct.
C'est comme on dit, c'est la bonne franquette à Cinébrunch.
Ouais, ben oui, bon 60e.
Ben hein? merci.
Écoute, je suis content parce que là c'est la deuxième fois que je viens. Fait que 2 sur 60.
C'est pas mal quand même.
C'est quand même pas mal, tu sais. C'est quand même un bon ratio.
Oui, puis c'est le quand, c'est significatif. C'est le 60e, je veux dire, c'est un point tournant
tout
d'émission.
Tout à fait.
Ben voilà.
Écoute, voilà, je vais devenir un habitué bientôt.
Oui, absolument. Ben, si tu viens une fois par mois, on devrait être pas pire.
Ouais, ça va être pas pire.
Donc, François, rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois que tu es venu nous expliquer rapidement c'est quoi le fameux Kino Show dont on a déjà parlé, mais bon, hein, pour les oreilles chastes.
Oui, tout à fait. Oui. Ben, le Kino Show, en fait, c'est un show magnifique. Hein? C'est ça que kino veut dire en latin, j'imagine, je sais pas c'est quoi.
Non, mais non, de kinos.
Non, non, kinos, tout à fait, c'est un dieu grec. Non, mais, non, mais c'est, kino show, c'est magnifique, je te dis, c'est garanti. Tu rentres là dans la place, ça se passe à la capsule à Sherbrooke, et, oui. Parce que c'est ça qui arrive, c'est à Sherbrooke. C'est magnifique.
C'est pour ça qu'on en parle là.
C'est pour ça qu'on en parle ici. Et c'est magnifique, tu t'en vas là. On va écouter des courts-métrages ensemble. Puis il y a des interviews aussi avec les réalisateurs. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis moi, je vais dire des conneries pendant ce temps-là.
Okay, y a-t-il un moment d'échange, en fait, pour le public avec les, avec les réalisateurs?
Généralement, le public ne parle pas, puis c'est moi qui parle.
Oui.
Puis là, les gens sont tristes que je pose des questions un peu connes. Mais des fois aussi, je pose des questions un peu intelligentes, des fois. Parfois, ça m'arrive.
Okay. Ah oui, oui. Bien dilué, là, dans la folie. Là, mais oui,
tout à fait. Okay. Ça m'arrive. Et là, le réalisateur peut répondre aussi. Lui aussi, quelque chose d'intéressant. Okay. Et là, on en sort tous grandis. Excellent. De ça, de cette discussion-là. Mais après ça aussi, les gens peuvent rester et discuter après, okay, avec les réalisateurs.
Okay. Il y a place à l'échange entre le public et le producteur.
C'est comme une espèce de talk show, mais en direct. Pas filmé, là.
Tout à fait.
Sur place. Mais c'est bien. Ouais. Puis on va y être. Hein. On va y être. N'est-ce pas, André-Jean? Tu vas être avec nous?
Ben, le 17.
C'est dans deux jours, lundi.
Lundi, j'y serai. Pensez-vous que j'y serai? Je vous y attends tous. Hein. On va arrêter. Non, mais on va envahir la capsule.
Ben voilà, c'est ce que je me disais. Donc, 38 Wellington Sud, pour ceux qui veulent se joindre à la joyeuse équipe de Cinébranche.
Je devrais être là aussi.
Mais j'espère bien. À quelle heure j'irai pas?
C'est 19h30.
Oui, 19h30. Oui, parce que là, on en parle, la capsule 38 Wellington Sud, 19h30, lundi le 17. Donc,
voilà. On va bien s'amuser. Et François, tu nous le disais la dernière fois, donc chaque kino show a généralement un thème.
Oui.
Et là, cette semaine, ce mois-ci, le thème, c'est
blanc. C'est magnifique. C'était long, c'était magnifique. Comme phrase, c'était la plus belle phrase, je pense, de l'année.
Capter l'attention des auditeurs.
Oui, voilà. Tout à fait. Non, mais ça a fonctionné. Mais là, le thème, c'est blanc. Parce que, blanc, neige. Mais on ne va pas juste tout le temps dans la neige. Là, hein? On va plus loin que ça.
Ça blanc, peut être un blanc de mémoire.
Tout à fait. Blanc, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Et je pense que ça va être le cas lundi aussi. Ça va être magnifique. Et aussi, il y a une contrainte. C'est ça qui est différent. Oh. Il y a des mots qui ont juste des thèmes, mais là, ce mois-ci, il y a thème plus contrainte.
On rajoute une petite peu de difficulté, là.
Ben oui, là, c'est la folie, là. C'est la folie qu'on a une contrainte, là. Fait que là, la contrainte, ce mois-ci, c'est, pour ceux qui se souviennent de la dernière fois, qui ont entendu ma voix mielleuse le dire la dernière fois, au micro, ils se souviendront peut-être que c'était langage soutenu. Tout à fait. Voilà. On se rappelle. Ça avait marqué l'imaginaire.
Oui, effectivement.
Tout à fait. Donc, langage soutenu encore, c'est ça. Ce mois-ci, ça va être ça. Donc, ça va être magnifique, langage soutenu, parce qu'on va ailleurs. On va ailleurs. C'est ça qui nous aussi. C'est d'aller ailleurs. C'est d'aller à des endroits qu'on pensait pas aller. Puis, langage soutenu, c'est ça qu'on fait au cinéma, langage soutenu.
Mais ça veut pas dire que c'est du Molière, là. Tu veux dire, ça peut être.
Non, ça peut être. On peut
la discrétion du réalisateur, de comment il intègre.
Tout à fait. Après ça, nous, c'est la contrainte qu'on donne. Puis après ça, on va sûrement essayer d'y poser des questions. Pour savoir...
Il était où le langage soutenu
là-dedans? Donc, il faut que tu puisses défendre ton film devant moi. Donc, c'est tout ce que tu as besoin de faire avec la contrainte. C'est juste que je vais te poser la question avec des gros yeux.
Oui.
Okay, mais t'es où la contrainte? C'est tout ce qui va se passer avec ça.
OK, il n'y a pas de conséquence si quelqu'un a fait un film et qu'il n'a pas suivi la contrainte, en fait.
S'il ne suit pas la contrainte, peut-être qu'on ne le diffusera pas. C'est peut-être ça.
Okay, okay.
Mais sinon, ça va être mes gros yeux. Mais normalement, on est quand même assez gentils. Mais c'est ça. Mais c'est quand même intéressant. T'sais, les gens peuvent donner leur film, puis après ça, ils sont présentés, puis ils ont peut-être même la chance de se faire interviewer par moi, ce qui est aussi, tu vois, un cadeau de plus.
Je pense que n'importe qui met ça dans son CV puis ça emporte que mieux.
C'est ce qu'on m'a dit. C'est un certain poids quand même chez les recruteurs après.
Oui, c'est ta grand-mère qui t'a dit ça?
Oui, tout à fait. Elle m'a dit de plus l'écouter. Donc là, la dernière fois, elle m'a dit ça. Donc là, ce mois-ci, là, je l'ai plus écouté. Puis elle m'a dit que ça avait une certaine valeur.
Donc, avis aux réalisateurs ou aux producteurs là, qui s'en viennent lundi, finalement. Vous avez une chance de modifier votre CV de façon terriblement positive.
Ça sera
d'être là lundi, finalement.
C'est là que ça se passe.
Puis là, vous avez rajouté des affaires. Là, parce que là, avant, on faisait juste aller là-bas. C'est contribution volontaire à la base, je comprends bien. Oui. Mais là, vous avez ajouté des affaires pour essayer de, comment dire, rehausser le level, si je peux me permettre.
Tout à fait. À chaque mois, on se réinvente. On est comme un... Je pense que c'est le serpent qui perd sa peau à chaque mois puis qui redevient...
Je ne sais pas si c'est à chaque mois.
Pas à chaque mois, mais disons, qui mue, plusieurs animaux qui...
Oui, oui, tout à fait. Ouais, peut-être pas à chaque mois. C'est un peu intense à chaque mois, mais nous, c'est à chaque mois.
OK.
Donc, on, oh. tu vois, on se redécouvre à chaque mois. On continue d'avancer. Et là, la dernière fois, il y avait eu je vais l'appeler le Nacho Man.
Nacho Man,
qui avait payé un nacho. Qui avait eu un empêchement dans la vie et avait quitté la salle avant de recevoir le dit nacho.
Il est devenu donc le Nacho Man.
Excellent. Et donc, on avait fait tirer le nacho.
Parce que vous ne saviez pas à qui ça allait, dans le fond.
Exactement, on savait pas c'était qui, parce que le Nacho Man était parti. Donc, un super-héros, hein, il faut que ça aille. Un Nacho Man, c'est un super-héros. Quand il y a l'appel, il faut qu'il aille aider. Fait qu'il est parti.
Okay.
Mais donc, on l'a fait tirer dans la foule et ça avait été l'hystérie la plus totale.
Hein. Oui, ça a levé, ça.
Non, mais pour vrai,
tout ça. Ben là, tout le monde avait de la salsa, des chips partout. Là, quand il l'a tiré dans la foule, ça.
Ah non, mais c'est vrai, les Beatles à côté de ça, là, c'était de la petite croustille.
Ah oui, plutôt. Non, quand même, il faut rester dans le thème du Nacho.
Pour rester dans le thème.
Mais donc qu'est-ce qui se passe là? Vous renouvelez? On s'attend-tu à voir la visite du Nacho Man?
On ne sait pas si Nacho Man n'a pas encore confirmé sur Facebook si elle allait être là, mais en l'honneur de Nacho Man, en fait, c'est qu'à l'entrée, quand tu... c'est contribution volontaire, mm-hmm. mais pour chaque tranche de 5$, on va te donner un coupon de participation. On va faire tirer un nacho pendant la soirée. Donc...
Prix de présence. Ça permet de valoriser le kino aussi, de vous aider un peu. À payer l'équipement, payer la publicité, tout ça.
Ben oui.
Exactement. C'est super.
Ça encourage le mouvement et en plus de ça, ça te donne l'opportunité de peut-être repartir avec un nacho et que tu peux déguster pendant le kino show. On va essayer de faire ça pas trop tard. Là. On va pas faire ça, le tirage
à 9h. On ferme les lumières.
Non, c'est ça exactement. Puis la dernière fois, le tirage avait été un petit peu aussi à la bonne franquette, mais là, on va avoir des coupons et des affaires. Là.
C'est organisé.
C'est
structuré, finalement.
Oui, la dernière fois, j'avais lancé une question au hasard. Là, c'est quoi mon nom? Quelque chose du genre. Là, je me rappelle plus exactement ce que j'avais dit, mais c'était un peu louche. Mais là, cette fois-ci, il va y avoir des coupons. Fait que, ça va être magnifique, vous allez voir. Là,
ça va éviter aux gens de crier pour avoir le nachos ou être entendu par au niveau de la réponse, finalement.
Exactement.
On n'entendra pas « François! »
Oui,
ça va être plutôt le numéro qui va être donné, la personne qui va se lever.
J'aime encore ça quand les gens crient mon nom, mais bon, ça, c'est une préférence.
On peut s'organiser.
On préfère crier les gens avant que le kino commence, peut-être pour François.
Oui, tout à fait, comme un gladiateur romain. Là,
voilà. Ça va se casser la gueule devant vous.
Oui, exactement.
C'est tellement beauté.
Non, ça va être vraiment bien. Allez voir ça le 17 décembre. Puis on en a plein après. Là, c'est le dernier de l'année. C'est sûr qu'on va être un peu triste, mais après ça.
En janvier.
On en a plein. C'est ça, notre saison n'est pas terminée. L'année va se terminer.
Voilà.
Mais la saison va se poursuivre.
Excellent.
Et on devient de mieux en mieux, en fait. Là, c'est fou. On se renouvelle à chaque fois, comme on disait tantôt. Et venez voir ça.
Vous avez toujours une page Facebook où on peut vous suivre, là, voir les prochaines soirées,
d'ailleurs,
les
il y a des
soirées,
petites vidéos de François qui fait des niaiseries. Là,
oui, exactement. Disponible. On essaie de se renouveler parce qu'on ne veut pas laisser les réalisateurs tout seuls là-dedans, à se ridiculiser si jamais ils font des trucs comme ça. Donc, c'est toujours bon, en fait, ce qui se présente. Puis moi, j'essaie d'arriver là avec de quoi d'un peu bizarre. Fait qu'on crée des petites vidéos comme ça puis qu'on met sur la page Facebook pour essayer de mousser tout ça. Parce que j'étais un acteur, il fut un temps.
Ah, voilà. Oui, voilà. Ce que peu de gens savent, je pense.
Peu de gens savent, tout à fait.
Il faut diffuser la chose, là.
Exactement. Donc, je continue à faire des petits trucs comme ça, là, parce que mon plus grand succès a été un peu un flop, en fait, dans les films. L'Internet Movie Database dit que mon plus grand film, c'est le film dans lequel je me suis fait couper du montage.
Merveilleux.
Mais écoute, je vais me fier à eux pour dire que c'est mon plus grand succès. Si l'Internet Movie Database dit que c'est mon plus grand succès, ça doit être mon plus grand succès.
Ben voilà.
Hein? Puis ma grand-mère l'a dit aussi.
Bon, mais c'est ta mère qui l'a dit.
Ça doit être fait. C'est mon plus grand succès. Ils m'ont coupé. C'est
excellent.
C'est magnifique.
Donc, merci beaucoup, François Genet, d'avoir été avec nous. On va se voir au Kino Show, mais tu restes avec nous pour le reste de l'émission?
Bien sûr, je reste avec vous.
Écoute, je suis curieux d'entendre tes souvenirs de ciné-cadeau et autres.
J'en ai beaucoup.
Merci beaucoup. André-Jean, tu as été voir la course des tuques.
Eh oui, pour vous, donc, je suis allé me consacrer à ce petit film d'animation, hein, donc la course des tuques, qui est sorti à la Maison du cinéma vendredi le 7 décembre. Donc, une production canadienne, devrais-je dire plus spécifiquement québécoise, réalisée donc par François Brisson et Benoît Godbout. Qui effectivement, on connaît François Brisson pour, entre autres, en fait, La guerre des tuques 3D, qui avait paru en 2015.
Oui. Avec la voix d'André Sauvé, notamment. Là.
Entre autres, effectivement. D'ailleurs, voyez-vous, comme les voix sont... parce que là, on est dans l'animation, mais complètement. Donc, les voix sont Hélène Bourgeois-Leclerc, qui... bon, je vous dirai pas qui ils incarnent quand même. Mehdi Boussaïdan... ou excusez-moi pour avoir digéré ce nom-là, Boussaïdan, en tout cas. Oui. Ludivine Redding, Marie-Lou Wolfe, Gildor Roy, Nicolas Savard-L'Herbier et Sébastien Redding. Et donc, je vous invite à écouter la petite bande-annonce.
C'est le jour de la course, gang! Venez-vous-en!
On va y montrer au petit nouveau c'est qui le meilleur.
Tu te rappelles qu'on fait ça juste pour le fun, hein?
On a de sérieuses raisons de croire que Zach a triché.
J'exige une course revanche.
On t'arrachera pas les dents, promis.
Ouais, ben, ça va être une victoire.
Si, c'est silence.
On fait pas de bruit.
On se lance dans le sensationnel.
Complètement. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous avez écouté la bande-annonce de La course des tuques, le petit film d'animation québécois qui vient d'apparaître, donc, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je vous envoie le synopsis un peu. Une spectaculaire course de luge a lieu au village. François Lélunette et son équipe avec Sophie comme courseuse. François Lélunette, ouais, c'est
lui. J'ai vu la bande-annonce, là. Il y a comme une lunette pas pareille d'un bord puis l'autre.
Ah oui, ben, on peut pas le manquer, effectivement. Avec Sophie comme courseuse contre le nouveau venu, le ténébreux et prétentieux Zach et son athlétique cousine Charlie. Hein, athlétique, oui, effectivement. La superbe luge conçue par François se désintègre en pleine course. La défaite est amère et François refuse d'admettre qu'il a commis des erreurs. Avec l'aide de ses amis, il réussit à prouver à Zach... À prouver, que Zach a triché lors de la course. Il exige une revanche. Zach accepte, mais à la condition que François construise une nouvelle piste dans les délais impossibles. Lorsque François et ses amis réussissent à relever le défi, Zach réalise que son adversaire est de taille. Alors que les deux équipes se préparent pour le grand jour, Zach n'a aucun scrupule à tricher de nouveau pour mettre toutes les chances de son côté. Mais François et son équipe lui réservent toute une surprise.
Et j'imagine qu'il y a une petite morale à la fin, là.
Ben, on peut s'y attendre, effectivement. je vendrai pas le punch de ce côté-là, bien sûr. Je vous dirais clairement un film pour toute la famille qui plaira surtout aux jeunes de la famille.
Ah bon? Mais c'est ça que j'étais pas sûr, moi.
Ah, dans la salle, j'ai eu des réactions qui m'ont moi-même fait pouffer de rire, qui n'avaient plus rien à voir avec le film, c'est-à-dire une petite fille qui interagissait avec son père pour lui demander pour quelle raison le train n'arrêtait pas, finalement, dans une scène là, X... du tout. C'est ça, comme je disais, c'est exactement le même univers, en fait, que dans La guerre des tuques 3D qui a eu lieu, l'adaptation qui a été faite, c'est-à-dire de la version originale de 1984, le film qui a tous marqué notre jeunesse. Ou, ben, pas tous, en fait.
Ça dépend quelle année on est
pour
né,
moi.
Là, mais voilà.
Et voilà. Mais je rappellerai bien sûr aux gens que ton affirmation sur le 60e, que c'est pas le 60e année de Cinébrunch, effectivement, je suis pas si vieux que ça non plus, mais c'est ça. Le film qui m'avait marqué, ou en fait on avait trouvé très drôle, hein, t'as de la neige sur ton épaule, t'as un trou dans ta mitaine, smic-smac, etc. Donc 2015, on refait le dessin animé, non mais c'est beau, oui, ça a été, écoute...
C'est bien résumé.
Mais les premières romances, je me figurais pas en relation à ce moment-là, donc de voir des jeunes...
On parle bien en 2015.
Oui.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est effectif.
Bon, c'est tellement cocasse.
Non, c'est ça. Donc, ouais. on est dans cet univers-là. Il faut savoir que, bon, à la base, je regardais un petit peu d'où ça venait. C'est en fait le premier conte, ou plutôt le conte numéro 1 de la série des contes pour tous. Hein, sachant que le conte numéro 0, c'était Le Martien de Noël, que vous pouvez tous aller voir sur YouTube juste pour rire un bon coup, parce que c'est quand même assez funny. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Non, mais même le film, ça n'a aucun sens. Le Martien lui-même est très drôle, en fait. En tout cas, voilà. Dans les faits, disons, je reviens à la course des tuques, hein, parce que là, je parle bien gros des autres, là, mais dans la course des tuques, on se retrouve dans le même univers, comme je le disais, la même gang de jeunes, même ambiance de fraternité qui est super importante. Mais on retrouve, on se fait présenter des nouveaux personnages. La mise en situation est assez rapide. C'est suivi d'une intrigue qui est sensible à la réalité de certains jeunes. J'entends par là des parents qui ne sont pas toujours présents pour leur enfant, la solitude vécue ou le rejet vécu par certains. En tout cas, je dois avouer que c'est d'où la réaction de la petite fille que je disais dans l'auditoire, là, qui m'a bien fait rire, en fait.
Ouais.
Visiblement, le jeune s'identifie sans aucun problème. Excusez-moi, on ne peut se laisser prendre... Ah oui, c'est ça, ça m'est arrivé de me laisser, pas verser une larme, mais prendre dans l'émotion de tout ça. On embarque, parce que là, comme tu as dit la semaine dernière avec ton visionnement, je me suis moi aussi mis dans mon cœur d'enfant et pour le regarder. Et puis,
faut se laisser aller.
Oui, il y a un petit quelque chose qui... Ça touche tout le monde, c'est quand ils nous mettent dans plusieurs situations où différents personnages qui l'ont un peu plus difficile que d'autres, etc., vivent des sentiments comme la jalousie, la colère, la tristesse, la sympathie, la joie. C'est toutes des choses qui, même aujourd'hui, peuvent nous arriver à l'âge adulte, bien sûr. Donc, l'identification est assez rapide pour l'attachement au personnage, finalement. Et la trame sonore est complètement revisitée, par contre. Il ne faut pas s'attendre à revoir ce qui avait été fait même dans la... clairement pas dans le film de 1984, ni dans La guerre des Tuques 3D en 2015, finalement. C'est un accent québécois majoré, autant au niveau de la production. Il y a une toune, je pense, qui est reprise, finalement, mais sinon, c'est toutes des compositions de musiciens québécois, finalement, québécois. En conclusion, moi, je dirais que c'est bravo. C'est-à-dire que, personnellement, y aller comme ça, si j'avais pas mis mes chaussures d'enfant, je me serais questionné tout au long du film. Mais en jouant le jeu puis en embarquant dans l'histoire, ça a été facile pour moi de me laisser aller à certaines émotions.
Je suis content d'entendre ça. Moi, je regardais ça avec un peu d'appréhension, honnêtement. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait l'air un peu comme justement la revisite de La guerre des Tuques. Ça m'avait l'air d'un film qui n'est pas vraiment pour les enfants d'aujourd'hui, mais les enfants d'autrefois. Là. Je sentais que c'était un peu pour faire plaisir à ceux qui avaient vu le vieux film plus que pour des jeunes. Mais tu me dis que ça arrive.
Je trouve qu'on a transformé la chose complètement. On l'a transformé. On a gardé l'univers. Mais l'univers du 3D de 2015, donc c'est devenu un village auquel c'est comme un dessin animé en fait qu'on est en train de. Je sais pas si on va en faire une série parce que peut-être que on a assez vu ce fameux village où il fait tout le temps froid puis il y a deux semaines d'hiver où les jeunes n'ont pas d'école puis ils s'amusent. Mais ouais. Honnêtement, moi j'embarque complètement. Si tu y vas dans un désir avec, en tout cas les enfants, amenez-les, il y a aucun problème, ça va les occuper. C'est totalement évident. Moi, j'hésite même pas à leur donner un 8.5 sur 10.
Excellent, wow. Excellent. L'enfant en toi était content, André-Jean.
J'ai eu des pincements au cœur, des petits moments là comme on confronte beaucoup la réalité de cette espèce de fraternité-là, de ce groupe de jeunes qui ont la grange, en fait, qui leur appartient. Puis ils se poussent eux-mêmes, ils vivent des tensions puis des déchirements à l'interne, mais ça se conclut toujours correctement parce qu'on prend le temps de se parler. C'est donc bien beau encore. Je reviens toujours avec cette espèce d'époque de tolérance, mais c'est ça. T'sais.
T'en parles, puis j'ai presque une larme qui coule.
Écoute. Fait
que j'imagine même pas le film.
Je vous dirais pas, les gars, on y va à trois, mais...
on n'est pas rendu là quand même.
Non, quand même.
Mais quand même, il y a un François dans le film, peut-être que François, tu te
notes. François aux lunettes.
Je prenais un instant, quand je suis rentré, je me suis dit, tabarouette, c'est-tu un remake du film? On était vraiment en studio pour personne.
Non, mais James Cameron, il est rendu plus loin que prévu. Finalement, il est en 3D. J'arrive là, c'est ça. Je vais arriver dans les salles du Québec, puis les gens vont penser que je suis dans le film.
Donc, c'est ça, sans hésitation, amener la famille, c'est un... On n'étire pas la sauce, à mon point de vue. Là. On a recréé l'univers et on l'utilise.
Bien content d'entendre ça, André-Jean. Merci.
Merveilleux.
Vous êtes toujours à l'émission Cinébrunch et aujourd'hui, on va vous parler du phénomène des ciné-cadeaux, de tout ce qui tourne autour de ça. Tout ça dans à peu près 6-7 minutes, mais juste avant, je vais critiquer pour vous un film que j'ai été voir récemment, donc pour ne pas dire avant-hier, au cinéma. Et ce film s'intitule « À la porte de l'éternité ». C'est un film qui relate une partie de la vie de l'artiste Vincent Van Gogh. C'est une production Grande-Bretagne, France, États-Unis, et le film est réalisé réalisé par Julian Schnabel, qui a fait, entre autres, le film, l'excellent film Le Scaphandre et le Papillon, que vous avez peut-être vu, je ne me souviens plus quand, 2007, 2006, 2008, dans ce coin-là. Un film claustrophobique, là, ni plus ni moins, où on est dans à l'intérieur d'une personne qui est prisonnier de son corps et qui, pour communiquer, la seule chose qu'il peut faire, c'est bouger les yeux. C'est assez phénoménal comme film, ça mérite d'être vu. Donc, quand même un réalisateur intéressant. Il a fait beaucoup d'autres films aussi sur l'art visuel, notamment un film sur Picasso, un documentaire. Chose assez surprenante, c'est que le film est scénarisé par nul autre que Jean-Claude Carrière. C'est un très, très grand scénariste français. Il a fait, entre autres, le film Cyrano de Bergerac et beaucoup d'autres films d'époque très connus. C'est quelqu'un qui a un pedigree au niveau cinématographique assez impressionnant, de grosses productions, mais pas des productions très commerciales, mais des productions, disons, d'auteurs, mais très des films d'époque, des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses faites par Jean-Claude Carrière. Distribution aussi très intéressante. Willem Dafoe, qu'on connaît pour notamment ses apparitions dans les films Marvel, mais dans plusieurs autres films. Rupert Friend, Oscar Isaac, qu'on a vu dans le dernier et qu'on verra dans le prochain Star Wars, mais il a aussi joué dans Ex Machina et dans plein de grosses, grosses productions. Donc, c'est des gros noms dans ce film-là, à la porte de l'éternité. Donc voilà, avant d'aller plus loin, un petit extrait de la bande-annonce. There's something inside me, I don't know what it is. What I see, nobody else sees it. You're a stranger here. You drink too much. You're hysterical, out of control. I don't want to calm down. It's called the act of painting for a reason. Go away! Don't you see that this painting is unpleasant? The townspeople have signed a petition against you. They don't want you to come back. I can't stay here, Vincent. You're surrounded by stupid, wicked, ignorant people. Donc, très joyeux comme film, vous l'aurez constaté. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un film, le film s'appelle À la porte de l'éternité, et c'est un film qui porte sur la vie du peintre Vincent Van Gogh. L'histoire débute pas très longtemps après l'arrivée de Van Gogh en France, alors parce qu'il est né aux Pays-Bas, alors qu'il rencontre Paul Gauguin. On suit son histoire alors qu'il va séjourner à Arles, et même jusqu'à la fin de sa vie à Auvers-sur-Oise. Et bon, j'ai vu pas mal tous les films d'artistes qui sont sortis dans les deux dernières années. Et j'avoue que j'avais vraiment très hâte de voir ce film-là. J'ai tellement aimé le film La Passion de Van Gogh qui était un film d'animation entièrement dessiné à la peinture à l'huile, comme Van Gogh, par une centaine d'artistes peintres qui ont fait ce film-là, image par image. Wow. Ce film-là est incroyable. Je ne sais pas s'il est encore sur Netflix, mais il était au cinéma, après ça, il était sur Netflix. Ce film-là, c'est un des meilleurs films que j'ai vus en 2017 et je recommande fortement à tout le monde de voir ce film-là. Alors, c'est certain qu'après avoir vu ce film-là, j'avais un peu hâte de voir un vrai film sur Van Gogh, moderne. Alors, voilà, je suis arrivé là-bas avec un petit peu d'excitation, pour ne pas exagérer. Mais quand le film a commencé, ça l'a un peu mal commencé. Donc, c'est ça qui arrive. Alors, je m'excuse à l'avance de démolir ce film-là grandement.
Encore une fois.
Sachez que ce film-là a une très bonne note sur Rotten Tomatoes et que beaucoup de bonnes critiques de ce film-là. Donc, considérez que ma critique est très subjective. Donc, prenez-la comme vous la prenez. Non,
tout aussi valable que n'importe quelle critique internationale.
C'est ce que je me dis, mais
on va pas commencer à se dévaluer.
Comme dit le proverbe, tout le monde a droit à mon opinion.
Oui,
donc,
voilà.
À ton opinion,
oui.
Tout à fait.
C'est ça qui arrive si tu expliques de la chose. Non, mais c'est...
Alors, on va parler un petit peu de la langue, parce que vous avez entendu que la bande-annonce était en anglais. Hein?
Oui, ouais, c'est ça.
Donc, bon, évidemment, Willem Dafoe, production américaine et anglaise. Mais moi, ça me dérange ces affaires-là. Ça me dérange profondément. On va se dire les vraies affaires, là. Tu veux faire un film en anglais sur Van Gogh ou même sur Bernard Pivot?
Ouais.
Pas de problème. Mais soit tu mets tout en anglais puis tu mets des sous-titres pour ceux qui parlent pas anglais, soit tu mets tout en français puis tu mets des sous-titres pour ceux qui parlent pas français.
Ouais, ça,
tu peux pas faire les deux, là.
C'est une discussion qui avait déjà eu lieu avec Mélina aussi, hein, je pense,
oui.
Je me rappelle
moi,
bien.
Moi, ça me...
Pourquoi traiter d'un
poil
artiste?
Le poil se raidit sur mon bras.
Ah, mais détends-toi.
Ben,
l'as vu, c'est terminé.
C'est terminé, oui, le mal est fait. Donc, on va faire un peu d'histoire, là. Van Gogh est né aux Pays-Bas. Il parlait très bien le néerlandais et le français. Il a vécu en France durant toute la période abordée durant le film. Il est entouré de francophones qui lui parlent en français. Expliquez-moi en quoi c'est pas une chose complètement absurde que lui parle anglais alors que c'est même pas sa langue, comme à la base. À la grosse limite. Ça m'aurait dérangé pareil, mais un peu moins si on l'avait fait parler en anglais juste quand il parlait avec son frère ou d'autres gens qui parlent pas le français. Mais non, parce que déjà en 2018, excusez-moi, mais c'est une minorité de natifs en France qui parlent bien l'anglais, là. Hein? Alors imaginez, il y a 150 ans. C'est certain que l'anglais n'était pas courant, là. C'est certain.
Oui, mais c'est pas utile. Tu es en train de me dire que dans le film, il interagit en anglais avec des gens qui parlent avec lui en français?
Oui, et parfois, il essaie de parler en français avec un accent, avec difficulté. Parce que Willem Dafoe essaye de comprendre le français dans son dans le film. Et tous les personnages secondaires parlent en français. Et des fois, Willem Dafoe répond en français avec son accent très anglais, mais c'est trop forçant pour accommoder le film. Et l'infinie paresse du réalisateur. Et donc, les Français ont un anglais impeccable et très moderne à part de ça. Donc, c'est ça qui n'a absolument aucun sens. Et je vais vous dire, à mon avis, c'est ce qui fait que la critique est biaisée sur ce film-là. Je reviendrai sur ce point-là. Mm-hmm. Mais c'est exactement la vision américaine du cinéma de penser qu'on peut juste changer les langues puis les trucs comme ça puis que ça c'est pas important.
T'sais, non, mais c'est pas utilisé parce que pendant un instant, je me suis dit, c'est pas utilisé pour exprimer sa folie par rapport au reste des gens qui l'entourent.
Il parle vraiment anglais. Au début, il essaie de comprendre. Puis tu vois, il parle avec des gens avec un accent très anglais. Puis là, à un moment donné, ça devient trop forçant. Fait que là, la personne qui parle français finit par parler en anglais. Puis là, il peut avoir une belle conversation en anglais avec des sous-titres. Okay. Ouais. Moi, là, ces affaires-là, je suis juste pas capable.
Complètement omis ça, au moins, tu sais, on aurait. Mais là, le fait qu'on commence à dire « oui, il y a du monde qui parle français », puis que
ce
petit côté-là de barrage de langage, puis après ça, soudainement, pouf, ça devient correct.
Oui, mais c'est surtout qu'il ne parlait pas anglais. C'est surtout ça. Ouais, mais
ça,
à un moment donné, il faut se calmer.
Si ça avait été maintenu tout le long du film.
S'il avait au moins respecté une certaine logique, mais là, c'est absolument absurde.
C'est échec.
À part de ça, c'est vraiment un film très contemplatif. Il n'y a pas beaucoup d'action là-dedans. On est très loin du côté enquête que le film La Passion de Van Gogh nous donnait là, en animation à l'encre. Ici, on essaie plutôt, on dirait, de nous rendre témoins ou même de nous mettre à la place de Vincent Van Gogh dans ses peurs, dans sa folie, dans sa perte de contrôle un peu. J'étais content qu'on aborde cet angle-là, qu'on traite la période où il a été dans un asile, parce que ça, on n'en parle pas dans tous les films, dans toutes les productions sur lui. Il a quand même été dans un asile où il pouvait aller volontairement. Là, c'était pas... forcé, là. Et bon, tu sais, c'est quand même intéressant, là. Tu sais, c'est inusité, là. Un asile dans les années 1800, là, ça doit être quand même quelque chose de cool. Mais malheureusement, on ne voit pas vraiment ce qui se passe là-bas, ou presque. C'est extrêmement restreint. Il y a des ellipses énormément dans ce film-là. Le film nous montre aussi un autre personnage qui est intéressant, qui est celui de Paul Gauguin, qui, malheureusement, à mon goût, nous montre quelqu'un de très différent et de beaucoup plus réactif. J'aimais mieux un peu l'image crasseuse interprétée par Vincent Cassel dans le dernier film, là, Le Voyage à Tahiti. Sinon, il y a d'autres affaires qui clashent dans le film, mais il y en a beaucoup. Tout le monde dit à Van Gogh d'arrêter de boire, mais on le voit jamais boire d'alcool dans le film, sauf peut-être une fois au tout début. Puis ça en est fatigant, là. Vous buvez beaucoup. Vous prenez beaucoup d'alcool. Il cessait l'alcool, mais on le voit jamais boire. À un moment donné, arrête de nous niaiser, là.
Mets-le en scène, c'est ça.
Ben, en tout cas, je sais pas, là.
OK.
Fait que c'est ça. Bon, le film traite du fameux livre de dessin retrouvé il y a quelques années qu'on a baptisé par après le brouillard d'Arles pour le commercialiser. C'est un espèce de livre, un carnet de dessin qui a été fait dans un livre d'hôtel, de conte d'hôtel, il y a toute une théorie sur cette histoire-là. Enfin, l'histoire, c'est que Van Gogh aurait dessiné pendant son séjour à Arles dans le livre du conte d'une auberge et aurait ensuite, beaucoup plus tard, remis le livre rempli de dessins à son propriétaire qui serait tombé dans l'oubli jusqu'à... récemment, en 2016, quand ils ont retrouvé le livre en faisant le ménage de la société d'histoire de l'église locale ou un affaire de même ou de la gare locale. Et là, ils ont retombé là-dessus, puis tout ça. Mais voilà, la vérité, c'est que le film est sorti là une semaine.
On savait pas ça.
À la fin, finit avec un texte qui dit que le livre a été retrouvé seulement en 2016, blablabla. Okay. Et si on fait le moindrement de recherche, on voit qu'il y a eu une pléthore de contre-expertises qui disent que ce n'est pas authentique et que ce n'est pas Van Gogh qui a peint, qui a dessiné ces dessins-là. Donc encore là, un petit biais, là, pas le fun, tu sais, d'une fausse nouvelle à la fin d'un film. Là, je dis pas s'il était sorti il y a 3 ans, là, mais je trouve que là, c'est dérangeant. Je trouve ça dérangeant. Fait, excusez-moi, je suis pas très positif avec mon film.
Ben, moi, ce que j'aime, c'est qu'à quel point ça se transforme en une destruction totale d'une tentative américaine de faire quelque chose d'intéressant.
Non, mais ça allait pas très bien dans ma vie ces temps-ci. Je me suis dit, je vais me défouler sur le film. Mais...
mais finalement, le film essaye de nous transposer cette folie-là. On sort de là, on doit être
à
moitié fou.
On y est comme tellement maudit que tu comprends mieux un peu ce que vivait Van Gogh.
C'est ça, c'est une grosse métaphore. Ils te mettent dans un... Ils te mettent dans le même contexte.
Je vais en rajouter une couche encore, parce que ce que j'ai le moins aimé dans le film, à part la langue, là, c'est la photographie pénible qui y est présente. Bon, je comprends qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont essayé de nous faire voir avec un angle différent, Pour ça, on utilise des mouvements de caméra qui sont extrêmement désagréables et chaotiques, pour ne pas dire étourdissants. Il y a des moments où je devais fermer les yeux, honnêtement, pour ne pas avoir la nausée. Là. C'est la caméra qui se promène, là, comme si je vous parlais comme ça. C'est pas très agréable. Ben, c'est ça qu'on voit à l'écran. Okay. Et wow. Assez souvent. Donc, c'est pas juste un peu. Donc ça, c'est fatigant. Et c'est tellement original comme idée pour nous faire voir la folie que même, je suis pas mal certain, un jeune chimpanzé aurait compris qu'il essayait de faire ressortir sa folie, donc la folie de Vincent Van Gogh, en bougeant la caméra plutôt que par le jeu de l'acteur. Et je pense que le directeur photo a acheté une lentille demi-floue avant le tournage qui voulait l'essayer au maximum avant de la retourner parce qu'au moins le tiers du film est tourné avec une lentille coupé horizontalement, qui met le flou en bas et le clair en haut. Et ça manque vraiment de diversité, là. Ça manque énormément d'originalité. J'ai l'impression que cette personne-là tripait vraiment beaucoup sur le résultat de sa lentille. Mais c'est pas si cool que ça, tu sais. OK, une fois ou deux pour rehausser, mais là, tout le temps, à un moment donné, il faut se calmer, là.
Il vient de le recevoir à Noël.
Après, moi, c'est ça qui s'est passé. Ouais. C'est ça, exactement. Le scénariste était incroyable. Le casting était incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est franchement dommage. J'aurais aimé que le non-verbal suffise à montrer l'esprit troublé, justement, de l'artiste plutôt que de surjouer puis là, de cacher ça avec du flou. Mais là, en tout cas, j'ai dit plein de comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plein de monde adore le jeu de Willem Dafoe dans ce film-là. Plein de gens adorent ce film-là. Chacun ses goûts. Moi, je pense que la folie, c'est autre chose que d'avoir l'air troublé en ouvrant les yeux comme ça, puis en bougeant n'importe comment. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus sobre, puis de plus modeste, puis plus introspectif. Puis franchement, on dirait vraiment qu'ils filment avec une GoPro quand ils sont dans les champs. Ça n'a aucun sens. Tu sais, là, ils courent, puis on voit ses pieds, là. T'sais, j'ai fait ça. Oh, ça suffit, là. Bon, ben, excusez-moi, là, je vais m'arrêter là parce que j'ai rien de bon à dire sur ce film-là. Ah oui, la musique est drabe aussi.
Écoute, j'ai pratiquement peur de te demander c'est quoi le
ma note n'est pas si pire, bizarrement. Je sais que je l'ai vraiment démoli, mais j'en ai un 6 sur 10. Je suis vraiment désolé, je peux pas rien dire de positif sur ce film-là parce que j'ai pris des choses pour acquis. Ça veut pas dire que le film est vraiment mauvais non plus. Simplement, un 6 sur 10, ça passe, mais c'est vraiment de mauvais goût. Les choix éditoriaux sont pas bons. Tout était là pour que ça soit bon. C'est des choix bizarres de réalisation, de montage, puis de surtout de caméra. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Renvoyer ce gars-là au plus vite.
Comme,
là,
comme tu dis, c'est potentiellement teinté des attentes que tu avais quand tu es rentré dans.
Mais peut-être
salle.
Un peu, mais tu sais, je me disais, j'avoue que j'aurais pas pensé que ça puisse être meilleur que La Passion de Van Gogh. Juste avec le casting, je me disais, ça. Ils vont faire de quoi de plus américain, plus, mais je m'attendais à quelque chose de plus style historique un peu, là, comme on fait en Angleterre avec plein de films sur la royauté, pis ci, pis ça. Mais on n'est vraiment pas là-dedans, là, on est dans autre chose. Mais c'était ambitieux, pour ça, je donne quand même un 6 sur 10, parce que bon, fallait quand même essayer de faire un truc comme ça, là. Ça demandait beaucoup de travail. Mais non, ça valait pas la peine.
C'est un flop total.
Mais pour moi, mais comme je vous dis, il y a plein de gens qui aiment ça. Puis Rotten, quand même 88 ou 85. Là, ça, Rotten, c'est quand même pas si mal.
En fait, c'est peut-être à cause de moi. À chaque fois que je viens, tu détruis les films que tu critiques. Je pense que c'est ça.
Ça un lien, oui.
Il doit avoir un lien. Je pense que c'est ça. À date, c'est 2-2.
Non, mais c'est ça. Ouais, je pense que tu as un peu raison.
Ouais.
Mais il y a aussi le fait, tu sais, je parlais tantôt de la langue. Ben, peut-être que pour du côté anglophone, le non-sens sur la langue dont je parlais passe peut-être totalement inaperçu parce que on prend pour acquis que même les proto-biontes parlent anglais, là, en langage soutenu. Là, je veux dire, c'est ça. On est habitué au cinéma américain que c'est la langue maître, c'est l'anglais. Mais là, c'est pas ça. Donc voilà. Désolé pour cette critique épouvantable.
Regarde, c'est, ben non,
mais c'est ça. Il
fallait que ça
sorte. Tu as droit à ton
opinion. Je me sens mieux déjà. Je me sens mieux.
Ça libère, c'est l'objectif.
Super. On parle souvent du cinéma et des films pour les fêtes, mais c'est pas tout le monde qui va au cinéma pendant les fêtes. Et même si vous y allez, il y a beaucoup de monde qui vont rester chez eux ou qui vont voir un film, qui vont vouloir rester chez eux, qui n'ont pas le goût de pelleter, pas le goût de sortir. On prépare le sapin, on met du sang bon parce que c'est pas un vrai sapin. Puis là, on met la télé à Télé-Québec et on écoute quoi?
Ciné-cadeau.
Ciné-cadeau.
Et voilà. Alors, on va parler de ciné-cadeau, André-Jean, d'entrée de jeu, aujourd'hui, le 15 décembre. Si vous nous écoutez en rediffusion, pardon, c'était il y a 2 jours.
Effectivement.
Mais
effectivement,
aujourd'hui, le 15 décembre, c'est le début de la programmation.
Effectivement, jusqu'au 6 janvier. Donc, ça va être, pour cette année du moins, c'est du 15 décembre au 6 janvier. En 80-81, dans l'hiver de 80-81, en fait, il y avait déjà à Télé-Québec des films qui étaient proposés à un public plutôt jeunesse, si on veut, vers 18h le soir. Et donc, c'était des animés, des fois des films, etc. Mais il n'y avait pas de case officielle. C'est arrivé, en fait, officiellement en 82. où là, Télé-Québec s'est mis à diffuser de façon automatique, même à 3 reprises, je pense, dans la journée. Ouais. Les heures classiques sont 9h le matin, à 15h30 et à 18h30. Après ça, ben, il y a des petites cases pour les adultes ou plus films famille, mais ouais, c'est souvent des animés, finalement, majoritairement, du moins, et ce, depuis 1982.
Quand même.
Donc, ben, je dois avouer que moi, personnellement, sans vouloir la ramener encore, avec mon âge vénérable, ça a bercé toute ma jeunesse. Et François,
oui,
toi?
Oui, j'ai été concerné, moi aussi, le ciné-cadeau. Puis je pense même qu'il y a un temps où ils voulaient l'enlever, puis ah là, oui, puis ça a fait toute une affaire. Il y a eu des plaintes, hein? Parce que ça vient nous chercher, là, ça fait partie de nous. Là,
ben, la télé, c'est quand même... je veux dire, là, on a perdu ce temps-là. L'importance de la télé a disparu un petit peu aujourd'hui.
Maintenant,
je
les gens écoutent la radio, maintenant.
Oui, ben voilà. c'est bien ça. Joué, celle-là.
On revient au vinyle et à la radio.
Ben, c'est ça. Vois?
Exactement.
Ah oui, il y a des choses qui m'ont marqué, que je me rappelle, et que j'avais écouté à Ciné-Cadeau, en fait. Donc,
des films
ça.
Qui sont présentés seulement à Ciné-Cadeau, c'est ce que tu veux dire?
Exactement. C'est des vieux films que moi, j'ai vus à Ciné-Cadeau, que je vais d'entrée de jeu vous introduire. Un dont je n'ai pas, malheureusement, la trame sonore, mais tout le monde connaît la série Garfield. Le film Garfield et ses 9 vies.
Ah oui!
On se rappelle de ce fameux chat. Donc,
j'ai oublié l'existence de ce film-là, mais c'était bon, ça.
C'était simplement merveilleux, ben oui. Hein, où on le voyait, bon, on retraçait les 9 vies du fameux Garfield en question.
Puis c'était beaucoup plus dramatique que les Garfield qu'on connaissait aussi. Oui. Il y avait comme une dynamique beaucoup plus profonde dans ce film-là.
Un petit quelque chose de sombre et puis effectivement d'une profondeur qu'on n'a plus aujourd'hui. En fait, on partait de l'âge préhistorique jusqu'au voyage dans l'espace. C'était
vraiment particulier, ce film-là.
Oui, ben, je dois avouer que c'était... Il y avait même un changement de style dans ce film-là qui faisait qu'on quittait même le type de dessin du Garfield automatique. Il y avait quelque chose de... Ouais. Puis comme tu dis, là, un effet dramatique dans certaines des histoires de ces 9 vies-là, finalement, que j'ai trouvé très intéressant, finalement. J'enchaîne tout de suite avec Le Roi et l'Oiseau. C'est un dessin animé français réalisé par Paul Grimaud. Sur lesquels ils ont commencé à travailler, en fait, tout de suite après la Deuxième Guerre, donc 1946. Les textes sont de Jacques Prévert et c'est d'après l'histoire, La bergère et le ramoneur, de Hans Christian Andersen. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si je vous dis « Le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 », qui est un tyran qui gouverne le royaume de Tachycardie, finalement, et qui est, bien sûr, amoureux de cette bergère dont le cœur appartient déjà à un petit ramoneur de rien du tout.
L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véritable. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de Tachycardie.
Alors, c'est vieux, ça, là.
Écoute, c'est poétique. C'est, honnêtement, il y a quelque chose de très... C'est comme tu dis, il y a une profondeur dans ces comics-là qui est très intéressante. En fait, c'est pas seulement une légende qui est racontée comme ça, c'est un beau conte. Moi, j'ai trouvé ça assez élégant, c'est mielleux, c'est doux, c'est... Et réfléchi aussi. Là. Finalement, on pourrait dire même que c'est probablement que ça tient pas au niveau du thème, mais ça tient de l'ordre de la prérogative de Kino, là, de ce lundi qui arrive, finalement, oui, en termes de langage soutenu.
Oui, absolument. Ouais, absolument.
J'enchaînerai avec Les Maîtres du Temps. Donc, vous me connaissez pour mes petites préférences sur la science-fiction, etc. Donc, un film qui est d'animation, celui-là, de 1982, réalisé par René Laloux sur des dessins de Moebius. Hein. J'en suis un fan fini, Moebius. Si vous n'avez jamais vu de ses dessins, il faut aller les voir. Donc, inspiré du roman de science-fiction L'Orphelin de Perdide de Stéphane Wool, je vous suggère d'écouter donc tout de suite la bande-annonce.
Cours vers les Dolons!
Piel, je te parle de très très loin.
C'est une merveille, ce petit engin. Communication instantanée dans tout l'espace 4.
Piel.
Ces malheureux individus vont perdre leur individualité. Ils seront nous. Nous serons eux.
Ce type est un danger cosmique.
Tout sera unité.
En réalité, l'histoire, c'est Piel, qui est un petit garçon qui est en compagnie de son père, qui atterrit sur une planète sauvage qui est la planète Perdide. Il y a un accident et son père, avant de mourir, réussit à contacter son ami Jafar et lui dit de sauver son fils Piel, qui envoie avec un micro, finalement, qui le met en contact avec son fameux ami Jafar. Piel reçoit de son père le fameux micro et il quitte pour déambuler dans cette planète-là où il n'y a personne d'autre que des petits animaux et d'autres animaux qui sont... des petits animaux inoffensifs qui vont l'aider, sinon des créatures qui veulent juste le tuer, finalement. Retrouver ce film-là, honnêtement, c'est quelque chose de...
Ça va vraiment bien, oui.
Et dans un autre registre complètement, mais plus enfantin, plutôt plus détendu, plus familial, affectueux, je vous propose... Peter le chat sans queue.
Oh mon Dieu, j'ai tellement content.
Ou Polo le chat sans queue, hein, j'ai essayé de retrouver là, en réalité.
Mais c'est Peter, je pense.
Ben moi, ça a toujours été Peter le chat sans queue, mais en réalité, en 1981, c'est un long métrage d'animation suédois qui a été fait par Jan Gisberg.
Ah, mais ça là, ça c'était un de mes films préférés, puis j'en parle souvent à des gens, mais personne se souvient de Peter le chat sans queue.
Ben voilà.
Des chats dans une ruelle, mais c'est vraiment la mafia.
Oui,
là.
Ben, c'est parce qu'en fait, oui, c'est ça. Ben c'est les inventaires. Il s'agit d'un petit chat qui a pas de queue, comme on peut l'entendre, qui est chassé de la ferme d'où il est issu, et qui doit réapprendre à vivre dans sa nouvelle famille d'adoption et à affronter les préjugés dont il est la cible parce qu'il n'a pas de queue. Hein? Voilà. Et voilà encore là des petites tensions émotives qui peuvent être vécues par tout le monde, hein? Parce que le rejet, on a tous vécu ça.
Bien sûr.
Et voilà. Donc ça, c'était mes revues passées. Hein? Oh. C'est-à-dire...
Les films qui ne sont plus dans les ciné-cadeaux.
Exactement, d'accord. Plus accessibles. On serait rendu, cette fois-ci, par contre, à tomber dans les suggestions de cette année. Hein? Qu'est-ce qu'il va y avoir cette année? Ciné-cadeaux a lieu du 15 décembre, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 janvier. Et moi, je vous garoche des petites suggestions personnelles. Hein? D'abord, les deux Astérix phénoménaux qui sont produits par René Goscinny et Albert Uderzo, soit les 12 travaux d'Astérix et Astérix chez les Bretons.
En fait, il y a une petite nuance que j'aimerais amener, André-Jean.
Vas-y, vas-y.
C'est que les deux vrais Astérix produits par Goscinny et Uderzo sont les 12 travaux d'Astérix et Astérix et Cléopâtre.
Oh!
Chez les Bretons, et chez les Bretons, peu de temps après, mais n'est pas de la même gamme. Et même Astérix Gaulois, le premier film, n'a pas été fait par Goscinny et Uderzo.
Mais
c'est
peu de gens savent ça.
Le premier n'est pas un film, pas si bon d'ailleurs. Le premier n'est pas un vrai Astérix. Les deux seuls vrais films d'Astérix là, qui sont entièrement là, conçus par Uderzo et Goscinny sont Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix.
Oui,
et
mais
ça paraît qu'on le regarde. C'est pas le même niveau, mais chez les Bretons, était très bon.
Je l'aimais beaucoup, moi.
Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimais bien, en fait. D'abord, les 12 travaux, juste pour comme ça, parce qu'on est à jour, hein, ça aura lieu, donc, ça commence le mercredi 26 décembre à 18h30. Il va être rediffusé après ça le 29 décembre à 9h, le 1er janvier à 15h30 et le 5 janvier à 18h30. Donc, les 12 travaux...
C'est le grand classique. C'est à mon avis, le meilleur là, de tous.
Effectivement, oui.
D'ailleurs, ça m'amène une anecdote. Moi, ça a bercé mon enfance aussi. J'étais un grand fan d'Astérix, d'ailleurs, et une grande frustration pour moi de Ciné-cadeau de Télé-Québec ou à l'époque Radio-Québec, c'est qu'ils coupaient des bouts, hein, des films pour les raccourcir.
Ouais.
Tu sais, le bout là, qui s'en va se faire hypnotiser. Là.
Ouais. Oui, ben oui.
Vous remarquez que quand il rentre, il y a, ils sont, je pense, deux qui sont sortis avant lui. Puis quand Astérix et Obélix sortent, il y en a un qui est là soudainement qu'on n'a pas vu avant. Mais ça a été coupé par le canal pour des raisons de rentrer ça dans l'horaire. Il y a le monsieur qui devient un oiseau, là.
Oui. Puis l'autre qui est un chat.
Oui, puis il y en a trois, en fait. Puis l'autre, c'est ça. Donc ça, c'est le genre de choses qui étaient coupées pour des raisons purement là, de grille horaire. Donc, petite frustration, là, comme ça. Mais en gros,
c'est ça. Faut quand même leur donner qu'on n'a pas besoin de se lever, hein, c'est-à-dire c'est diffusé à la télé, on est chez nous, pas besoin de...
Ben, c'est ça.
Tout à fait. On est en pyjama, puis on regarde ça directement.
Ben, c'est ça. T'sais, ça mérite-tu une coupure? Sûrement non, bien sûr, mais quelque part...
Les puristes diront non.
Mais... c'est ça, c'est ça.
C'est ça.
Mais c'est toujours, effectivement, qu'on l'a vu la première fois. Ouais. Après ça, qu'on voit des coupures, ça nous fait mal à chaque fois. Là. Ouais. Ça vient nous couper dans le cœur directement.
Puis toi, François, c'était quoi tes choix là, de ciné-cadeaux?
Ben moi, écoute, Astérix en fait partie, mais il y a aussi Tintin. Hein?
Oui.
Tintin, c'est un grand classique. Mm-hmm. Hein? Je pense que, je veux dire, on les a tous vus. Hein? Je pense que ça a bercé notre jeunesse. Aussi les Lucky Luke.
Oui, Lucky Luke.
Lucky Luke.
Ça, les vrais films, là, pas la série.
Oui,
qu'on fait après.
Exactement.
Mais,
oui, tout à fait. C'est des... Ben en fait, la bande dessinée, quand elle est portée en film, moi, je trouve ça vraiment intéressant.
Ouais.
Puis je pense que c'est les meilleurs moments, parce que des fois, il y en a qui ont essayé de faire ça, puis que ça n'a pas tout à fait vraiment marché. Mais dans les ciné-cadeaux, je sais pas si c'est juste parce que j'étais jeune puis que je trouvais que ça a bien marché, mais je pense que ça a quand même bien veillé aussi. Puis ça a traversé le temps. Puis pour moi, un sapin de Noël, un petit peu de froid, puis ciné-cadeaux, pour moi, c'est ça, Noël.
C'est ça, Noël. Ben oui, c'est ça. Oh, oui.
Avec une petite odeur de nourriture aussi. La tourtière qui est là. C'est les incontournables. Je veux dire, on peut clairement plus refaire ciné-cadeau sans avoir ces incontournables-là. Ouais. Il y en a qui quittent, puis qui partent, puis qui reviennent. Mais ceux-là, ils vont rester, ceux-là, j'espère. Ils restent,
oui. Si vous aviez un film de ciné-cadeau là, que vous pouviez emmener avec vous sur une île déserte, ça serait lequel?
Oh, wow! Une belle île déserte quand même, avec l'électricité. Mais sinon, je prendrais peut-être... Mais Astérix chez les Bretons, je pense que c'est un des classiques, moi.
Ça s'écoute bien.
Oui, ouais, ça s'écoute bien, puis on peut le réécouter plusieurs fois, mm-hmm. puis on ne s'étendra jamais, je pense.
Ah, moi, je reste accroché sur Les Maîtres du Temps.
Les Maîtres du Temps.
Ouais, moi, j'aurais arrêté ma vie. Non, c'est pas arrêté. Non, mais
la vie est complète.
Honnêtement, exact. Non, c'est... mais j'irai pas jusque-là, mais je dois avouer que ça. Ouais, moi, c'est Les Maîtres du les Temps. Maîtres là, du allez temps. Trouver ça, sérieux, ça vaut la peine.
Ouais, et moi, ça serait certainement Les 12 travaux d'Astérix. Donc, on est dans le thème, mais avec une mention spéciale à Tintin et le Temple du Soleil.
Ah, oui,
la chanson de Zorino.
Oui, c'est ça, le lac aux requins, etc.
Voilà. Ah, mon Dieu. Ben merci à tous. C'était fort agréable, cette discussion sur ciné-cadeau. C'est déjà la fin de cette émission. Merci André-Jean, merci François d'avoir été avec nous pour ce 60e épisode de Ciné-Brunch.
Merci. Oui. Moi, c'est quoi? C'est les noces de quoi déjà?
C'est les noces de popcorn, j'imagine.
Wow! Exactement!
Alors, merci à tous d'avoir été avec nous. Si vous nous écoutiez, vous pouvez nous réécouter en rediffusion les mardis à 11h ou directement les samedis à la même heure. Sinon, on se retrouve sur notre page Facebook ou sur notre site web cinébrunch.com. On se dit à la semaine prochaine pour un autre et un dernier Cinébrunch avant les fêtes.
Merci.
À la semaine prochaine.
Au revoir.